Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Bugat pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est de zèle.
Bonjour à toutes et tous. La santé, vaste sujet, vaste programme. En ces temps d'épidémie, de pandémie, évidemment, il était important, urgent peut-être, de parler de l'histoire de la santé, de son évolution, de ce que nous avons appris, de ce que nous apprenons et de ce que nous allons apprendre. Peut-être que le Covid, effectivement, nous a appris certaines choses, en tout cas nous a permis peut-être d'avancer. Mais au-delà de ça, je vous propose aujourd'hui un livre instructif, intéressant, passionné, écrit par un auteur passionné et passionnant. Eh bien, le titre veut tout dire à lui-même, Homo Sanitas. Bonjour Nicolas Bouzeau.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour Délivrez-vous, pour ces deux ailes, pour votre ouvrage Homo Sanitas aux éditions IXO. Alors, tout d'abord, plusieurs questions, comme ça me viennent. Votre livre est passionnant et vous êtes un passionné. Alors, vous êtes un essayiste passionné de science et de la santé. Mais pourquoi tant de passion, tant d'intérêt pour ce grand sujet, qui vient des temps de toujours et d'aujourd'hui?
Oui, alors en fait, ça fait longtemps que je m'intéresse aux questions d'innovation dans le domaine de la santé.
Oui.
Et j'ai écrit plusieurs ouvrages sur l'évolution des innovations, hein, sur le numérique, l'intelligence artificielle, les robots, etc.
Oui.
Et j'avais remarqué que beaucoup de ces innovations se concentraient justement dans le domaine de la santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez l'imagerie médicale, vous avez des progrès extraordinaires. Quand vous regardez la chirurgie, vous avez des progrès extraordinaires. Quand vous regardez les thérapies, les médicaments, vous avez des progrès extraordinaires. Et je me suis dit, au fond, la santé, c'est formidable parce que ça va me permettre de montrer à mes concitoyens qui parfois perdent un peu foi en l'avenir que le progrès est encore possible. Alors, pas le progrès au sens qu'on pouvait lui donner à partir des Lumières, après Condorcet, tout le long du 19e siècle, c'est-à-dire quelque chose d'un peu désincarné et abstrait, mais un progrès très, très concret. Quand vous êtes malade d'un cancer et qu'on vous propose une thérapie innovante qui va vous soigner, voire vous guérir, c'est un progrès.
Ouais.
C'est quelque chose, c'est pas abstrait, c'est pas une généralité. Et voilà, la raison pour laquelle j'ai beaucoup travaillé sur ces questions. Je ne suis évidemment pas médecin, comme vous le savez, ni épidémiologiste.
Oui.
Ce que j'ai essayé de faire, c'est une histoire de la santé au regard de l'histoire des technologies et de l'histoire économique.
D'ailleurs, l'un de vos derniers ouvrages était avec Luc Ferry, c'était un tout autre sujet, tout autant intéressant d'ailleurs. Alors, on s'aperçoit que les sociétés tribales, elle racontait dans votre livre, d'il y a 10 000 ans, 20 000 ans, ils opéraient déjà, il y avait de la chirurgie, il y avait des dentistes, les plantes également étaient à l'œuvre, et finalement, on sait aujourd'hui que dans certains médicaments, il y a beaucoup de plantes, évidemment. Et finalement, moi, j'ai envie de dire, on a appris, mais on n'a rien inventé.
Alors, ce qui distingue l'humain de l'animal, c'est que l'humain, pour reprendre la terminologie d'Anna Arendt, est un homo faber, c'est-à-dire quelqu'un qui construit le monde, qui construit des écoles, qui construit des musées. Voilà, donc autant de choses que ne font pas les animaux. Mais c'est aussi quelqu'un qui se soigne, qui soigne les autres, mais pas simplement dans une optique de soulager la souffrance. Ça, les animaux le font, les animaux essaient de soulager leur souffrance.
Ouais.
Mais ce que fait l'humain, c'est qu'il soigne l'autre pour le rendre capacitaire, c'est-à-dire pour lui donner la capacité à construire sa vie. Et puis, ce qui est très frappant, c'est que vous avez en effet, depuis des millénaires, voire des dizaines de milliers d'années, l'idée de combattre la mort. Vous avez vraiment l'idée du projet du combat contre la mort, repousser les limites.
L'immortalité.
Et l'immortalité, alors, c'est un narratif, comme je le montre dans l'ouvrage, qui a toujours...
Homo vivens.
Vous avez toujours eu des dieux qui vous ont promis l'immortalité, vous avez toujours eu des dirigeants qui ont voulu... Je prends l'exemple, par exemple, du fondateur de la Chine, l'empereur Qi, faisait des recherches pour atteindre à ce graal d'immortalité. Et encore aujourd'hui, vous avez des entreprises, et ça c'est aussi tout à fait concret, hein, qui vous proposent des services de cryogénie. Alors c'est pas l'immortalité, oui. mais l'idée c'est que juste avant de mourir, on vous met dans une cuve d'azote à moins plusieurs centaines de degrés, et le jour où on a trouvé le médicament...
On vous réveille,
on vous admise. Ouais. Et donc vous avez quand même des gens qui payent pour ça. Donc cette idée d'immortalité, elle est comme, qu'on peut trouver naïve, mais néanmoins, il faut admettre qu'elle est consubstantielle au projet humain.
Mais d'ailleurs, cette idée, on vous endort et puis on vous réveille, nombreux films et séries l'ont repris à leur charge. Hein. Par exemple, avec Louis de Funès, bon, pourquoi pas, mais voilà, où on vous met dans la glace, ou alors on vous met dans un vaisseau spatial et puis on vous réveille dans 3, 4 000 ans, 5 000 ans, voilà. Enfin, l'image, elle est là, et la symbolique et l'envie aussi, parce que avant tout, c'est aussi face à la terreur de la mort, donc il faut se créer.
Oui. Et d'ailleurs, je consacre un chapitre au mythe et au dieu.
Oui,
Vous retrouvez, alors si ce n'est la promesse de l'immortalité, en tout cas, la justification de la maladie et donc la promesse de la guérison dans de nombreux mythes et chez de nombreux dieux. Mmh. Ça commence avec la civilisation de Babylone, en Mésopotamie, où, au fond, vous avez des médecins. Et si vous souffrez, n'importe quoi, mais de vomissements par exemple, vous allez voir le médecin et il va quand même essayer de trouver une cause. Mais évidemment, ça n'est pas une cause scientifique parce qu'on n'est pas du tout, on est encore très loin de la philosophie socratique, du siècle d'Hippocrate. Mmh. Mais on va quand même vous interroger et on va essayer de trouver des causes et des remèdes à votre maladie qui sont médiés par une morale religieuse. Donc on va vous dire, par exemple, est-ce que vous avez été infidèle à votre conjoint, est-ce que vous avez volé, est-ce que vous avez frappé quelqu'un, vous voyez. Donc il y a quand même cette idée du mythe et de la religion au service de la médecine et de la guérison.
Oui. Alors, votre titre, c'est Homo Sanitas. Nous sommes des Homo sapiens, c'est l'homme qui sait, l'Homo erectus, l'homme qui s'est levé. Homo Sanitas, on pourrait dire l'homme de la santé, l'homme vers la santé, l'homme pour la santé.
C'est tout ça, hein. C'est vraiment tout ça à la fois. C'est vraiment l'humain qui, de tout temps, cherche à utiliser, il utilise les technologies les plus récentes pour améliorer sa santé et pour repousser la mort. Vous évoquiez la question de la préhistoire, des opérations chirurgicales. On faisait déjà de la chirurgie il y a plusieurs milliers d'années. On procédait par exemple déjà à des trépanations, peut-être pour des gens qui avaient des traumatismes crâniens par exemple. On ne sait pas trop bien, mais on imagine que ça peut être ça. Plus prosaïquement, vous évoquiez la question des dentistes. Ça, ce sont des découvertes qu'on a fait relativement récemment. Il y a 10 000 ans, on a retrouvé des dents d'hommes préhistoriques cariées, mais avec des morceaux de silex et de chanvre. C'est-à-dire qu'en fait, on essayait d'enlever les caries avec des outils, avec des silex, et puis on devait procéder à des sortes d'anesthésie locale avec des plantes
anesthésiques. Avec des plantes, tout à fait.
Ouais. Et... Donc, vous voyez, ça a toujours existé, c'est consubstantiel au progrès humain. Et on a beaucoup entendu récemment, et encore aujourd'hui, on en fait trop par rapport à cette épidémie de Covid-19, on est dans une époque hygiéniste, hypochondriaque, mais en fait, ce que je montre avec mon analyse historique, et ce que j'ai découvert d'ailleurs, pour être tout à fait honnête avec vous, en menant ces recherches, c'est que il n'y a pas de particularisme de l'époque contemporaine. On a toujours cherché ça. On a toujours cherché à combattre les épidémies. On a toujours cherché à aller mieux, à prolonger la vie. Et donc, de ce point de vue-là, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui est très classique.
Oui, c'est vrai. Alors, vous abordez aussi une question qui est, moi, somme toute, je trouve très importante. Vous posez la question, est-ce que la santé restera dans le domaine public ou est-ce qu'elle basculera un jour dans le domaine privé, des milliardaires, des gens qui auront les moyens pour se payer la santé, pour laisser peut-être au bord du chemin pour ceux qui n'auront pas les moyens? Comment vous voyez ça? Je vous avoue, ça m'a inquiété et ça m'a interrogé, sincèrement.
Ça inquiète beaucoup de gens. Alors, ce qui vous inquiète peut-être, c'est que aujourd'hui, les gens les plus riches du monde, Jeff Bezos, Zuckerberg, Elon Musk, sont aussi ceux qui investissent le plus dans la santé. Mais ça se comprend. D'ailleurs, vous remarquerez qu'ils investissent, en particulier Jeff Bezos et Elon Musk, dans l'espace, la conquête spatiale et dans la santé. Et en réalité, c'est logique, parce que ce sont les deux frontières, en fait. Comment sortir de Terre et aller plus loin, et comment repousser la mort. Donc, ce sont les des deux grands défis qui se proposent à l'humanité. Et il est assez logique que les gens les plus riches du monde mettent une partie de leur fortune.
Mais n'y a-t-il pas aussi la démarche de trouver un autre ailleurs si jamais la vie sur Terre, pour des tas de pandémies, tas de virus, n'était plus vivable?
Oui, ça c'est la théorie d'Elon Musk,
oui.
Qui, alors dans un langage anglo-saxon extrêmement pragmatique, hein, qui peut nous sembler très choquant, mais oui. Explique que notamment sa volonté d'aller sur Mars, c'est un plan B. Voilà, un plan B. Entendre par là s'il y a une catastrophe sur Terre. Je pense qu'il pense plutôt à une catastrophe écologique, hein, avant une épidémie, mais bon, à la limite, ça importe peu pour le raisonnement. L'idée, c'est que si une immense catastrophe frappe la Terre, on pourra toujours aller ailleurs. Mais juste pour répondre à votre question qui est très importante sur public-privé, au fond, que les milliardaires mettent énormément d'argent pour essayer de lutter contre les maladies. Bill Gates le fait sur les vaccins et c'est formidable. C'est un don à l'humanité absolument extraordinaire qu'il fait. Je pense que le sujet, c'est surtout d'adapter nos états de providence pour faire en sorte que nous tous, vous et moi, tous ceux qui nous écoutent, aient, quelles que soient leurs conditions sociales, quel que soit l'endroit où ils habitent, quel que soit leur âge, pour qu'ils puissent avoir accès aux meilleurs soins possibles. Je pense que c'est ça, en fait, le sujet. En tout cas, ce qui pourrait vous préoccuper. Mmh. Mais ça, la balle est entre nos mains, et pour l'instant, en France, on le fait bien. En France, on a un système de santé qui a quelques défauts, mais je trouve que c'est quand même un système qui fonctionne bien, qui, même en ce moment où il est sous tension extrême, fonctionne quand même bien.
Oui, quand même. Oui.
Et en tout cas, il offre un accès très égalitaire aux soins. En France, si vous souffrez d'un cancer grave, par exemple, vous poussez la porte d'un centre de lutte contre le cancer, vous ne payez rien vous aurez accès aux meilleurs soins dans le monde.
Vous allez à l'hôpital, pour quel que soit le soin, vous rentrez, vous ressortez, vous n'avez rien payé, vous montrez votre carte vitale.
Tout à fait. Donc si vous voulez, on critique notre système, mais il ne faut quand même pas oublier qu'on a construit quelque chose qui est merveilleux et qu'il faut préserver. Et d'ailleurs, quand ça m'arrive, je fais des propositions de réforme pour le système de santé, c'est évidemment pas pour le détruire ou pour faire des économies, pour le principe, c'est pas du tout ça. C'est justement pour préserver son équité, son efficacité et son équité.
Et il y a des avancées très importantes et j'ai l'impression justement qu'au travers des épidémies et avec le Covid sans doute allons-nous ou avons-nous appris des choses, mais vous parlez aussi des grandes avancées, il y a l'immunothérapie, les thérapies géniques, c'est demain et ce sont des choses extraordinaires, c'est-à-dire qu'en fait on ne traitera plus forcément le mal à l'intérieur mais de l'extérieur en y apportant l'immunité par un autre solvant.
Ça, c'est sans doute, c'est l'un des domaines dans lequel on fait le plus de progrès aujourd'hui, tout ce qui concerne l'immunité, l'immunothérapie. Alors, le grand paradoxe de la situation présente, c'est que nous traversons une crise sanitaire très grave, donc la plus grave depuis un siècle, et en même temps, elle va accélérer des progrès.
Regardez le vaccin, en à peine un an,
c'est exactement là où je voulais en venir.
C'est le génie humain dans toute sa splendeur.
Je suis content de vous l'entendre dire, je partage ça avec vous, évidemment. Les fameux vaccins à ARN messager, en France,
incroyable.
On en administre beaucoup, pas assez, mais enfin bon, Pfizer BioNTech, c'est le vaccin qui est le plus administré en France. C'est une innovation extraordinaire, parce que c'est un vaccin incroyablement efficace, avec quasiment pas d'effets secondaires. Là, ce sont les vaccins les plus sûrs et les plus fiables et les plus efficaces de toute l'histoire de la vaccinologie. Mais il faut bien comprendre d'où ça vient et où ça nous emmène. Ça vient de l'étude du génome, qui lui-même est permis aujourd'hui par les grandes capacités numériques et dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc c'est quand même beaucoup de l'informatique et des nombres. Donc là, ce que l'on a fait avec ces vaccins très schématiquement, c'est qu'on a séquencé le génome de la COVID-19, on en extrait ou on copie un brin d'ARN messager qu'on vous injecte à vous et à moi. Ce brin d'ARN messager, il va demander à notre corps de fabriquer la fameuse protéine spike, hein, celle du virus, et du coup, notre corps lui-même va fabriquer des anticorps. Si bien que le jour où vous rencontrez pour de vrai le virus Covid-19, vous n'avez rien, vous avez un tout petit rhume, parce que de toute façon, vous avez déjà énormément d'anticorps qui avalent le virus.
Le virus.
C'est une simplicité biblique. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que avec le processus que je viens de décrire, vous pouvez traiter des maladies cardiovasculaires, vous pouvez traiter des maladies infectieuses rares et graves, et vous pouvez, ce qu'on commence à faire, traiter des cancers. Et quand vous regardez le portefeuille produit des sociétés qui font ces vaccins ARN messager, donc aujourd'hui il y en a trois, il y a BioNTech, Moderna. Une autre qui va sortir son vaccin bientôt qui s'appelle CureVac, dans toutes ces sociétés, vous avez en fait des produits pour des pathologies extrêmement larges. Donc vous voyez que c'est quand même extraordinaire. Quand je vous parlais de progrès tout à l'heure, ben, je ne vous mentais pas. Mmh. Il y a quand même des progrès et il ne faut pas perdre foi dans l'avenir. On traverse des moments qui sont très difficiles en ce moment. Mmh. On a des taux de dépression, de la pauvreté, etc. Donc on traverse vraiment des moments difficiles. Mmh. Ne perdons pas de vue que derrière ça, il n'y a pas une abysse. Après le trou noir, il n'y a pas un autre trou noir. Mmh. Il y a un monde qui peut être assez formidable si on se débrouille bien.
Enfin, Nicolas Bouzou, l'humanité a traversé d'autres crises, d'autres périodes, et finalement, on s'en est toujours sorti. On a cette force d'âme, cette force de vie, de vouloir, d'avancer. Donc, je ne veux pas minimiser les choses, parce que ce que nous vivons, c'est très grave, et il y a des gens qui en souffrent. Néanmoins, il n'y a pas de raison, on s'en est toujours sorti, et on s'en sortira, parce qu'on a ce génie humain, et cette force de vouloir avancer, et aller au-delà des choses, et de combattre le mal, parce que c'est dans notre ADN aussi, depuis la nuit des temps, de toute façon.
Moi, je vous remercie de le dire. Hein. Je souscris mais à 100% à votre façon de présenter les choses. Et même, on a d'autres défis très importants devant nous. Le réchauffement climatique, par exemple, est un défi immense, un très gros problème. Mais je suis très confiant dans notre capacité à nous y adapter et à le régler partiellement. Mmh. Non pas par la décroissance, non pas par le retour en arrière, mais grâce à l'inventivité humaine, à notre capacité à produire des énergies décarbonées, à notre capacité à faire de l'économie circulaire, à notre capacité à faire des plastiques qui ne vont pas abîmer les océans, etc. Et en fait, ça a déjà commencé. Il faut aller plus loin et plus fort. On a déjà pris le bon chemin. Oui. Donc, il ne faut pas... C'est aussi un message aux plus jeunes. C'est-à-dire qu'on parle en ce moment beaucoup de générations sacrifiées, fracassées, etc. Oui. Il est sûr que quand on est jeune, aujourd'hui, c'est très dur, très difficile quand on cherche un stage.
Enfin, vous ne croyez pas, Nicolas Bouzou, que ceux qui ont fait la guerre de 14-18 dans les tranchées, 39-45, leur jeunesse était bousillée aussi?
Voilà, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Et puis, de toute façon...
C'est peut-être dur, hein, c'est peut-être, peut-être pas audible pour certains, mais malheureusement,
Mais je suis d'accord avec vous. Et puis, de toute façon, il faut qu'on soit capable de faire mentir ça. C'est-à-dire que il ne faut pas dire qu'il y a une génération sacrifiée et puis c'est triste, c'est terrible et puis on se met à pleurer. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de se dire comment est-ce qu'on utilise tout notre savoir, tout ce qu'on a appris, y compris pendant cette crise, toutes les innovations, tout le savoir scientifique qu'on a accumulé, comment on utilise tout ça pour faire un monde meilleur. Et vous avez tout à fait raison de regarder, moi je raconte ça dans le livre, mais qu'après toutes les grandes périodes de crise, que ce soit des guerres, des épidémies, vous avez des renaissances.
Bien sûr, bien sûr.
Alors, ça, c'est psychologique, c'est exactement ce que vous avez dit. Mmh. C'est quelque chose que mes collègues économistes ont du mal à quantifier parce que ça se quantifie mal, mais c'est un phénomène d'instinct de vie en fait.
Oui. Vous voyez, mais vous savez, il y a un de vos collègues qui avait dit à l'automne, une économie ça se reconstruit, une vie perdue ça ne se reconstruit pas, quand c'est fini, c'est fini. Voilà. Moi je garde ça en tête, ça peut paraître dur, peut-être inhumain, mais les faits sont là. Il faut penser à ceux qui meurent, qui sont à l'hôpital. Alors justement, en parlant de génie humain et de ces recherches, il y a aussi un chapitre qui est très intéressant dans votre livre, c'est sur le cerveau. Parce que justement, ce cerveau méconnu que nous utilisons à 15, 20, 20% de ses possibilités, et on se dit donc, si on l'utilise si peu au vu de ses possibilités, donc nous avons encore des tas de choses à inventer, et les recherches vont bon train en la matière. Mais on ne sait pas tout encore sur notre cerveau.
C'est vraiment la nouvelle frontière. Grâce à l'imagerie médicale, on fait aujourd'hui des progrès extraordinaires, pas encore dans les traitements, mais dans la compréhension du cerveau.
Oui.
Mais c'est le début, hein. D'ailleurs, pour les jeunes qui nous écoutent, voilà, travailler sur les questions de neurones, sur les questions cérébrales.
Ça peut être des métiers futurs, hein ? Créer des métiers futurs.
Complètement. Ouais. Alors, il y a deux voies dans le domaine thérapeutique, avec des conséquences économiques et sociales pour la partie que je connais mieux, qui sont colossales. Mm-hmm. Première voie, tout ce qui est recherche contre les maladies neurodégénératives, hein, donc Alzheimer, Parkinson, etc.
Ouais.
Alors là, on est au début, on commence à voir des choses, hein. On commence à avoir des traitements qui ralentissent la maladie, on sait aussi comment mieux les prévenir, donc on commence à voir des choses, mais c'est le début.
Oui.
Et vous avez un deuxième champ qui me tient très à cœur et qui va être très important, d'ailleurs malheureusement ces prochaines années, c'est tout ce qui est troubles psychiatriques, les maladies psychiatriques.
Ouais.
Vous savez, on a longtemps dit aux gens qui faisaient des dépressions très graves, par exemple, « Oh ben écoute, vraiment prends-toi en main ou bois un coup, ça ira mieux. » Non, on se rend compte que c'est pas aussi simple que ça. Vous avez des gens qui en souffrent parce qu'ils ont des lésions cérébrales. Donc, ce sont des choses qui peuvent se traiter et qu'on va traiter ces prochaines années. Donc, vous voyez, le cerveau... Alors, on fait aujourd'hui beaucoup de progrès dans la lutte contre le cancer. Quand on aura vraiment réussi la bataille contre le cancer, dans 10, 15 ou 20 ans, le grand sujet, ce sera le sujet du cerveau. Donc un nouveau champ absolument passionnant.
Mais justement, il y a une chose aussi très importante à propos du cerveau et de l'hérédité aussi. Il y a le grand sujet de l'épigénisme.
Oui.
Et je trouve que c'est un sujet passionnant parce que on peut expliquer des dépressions, de l'angoisse, pourquoi je le vis, bah parce qu'il y a une génération, deux générations en arrière, c'était inscrit dans les gènes, et cet épigénisme, on le porte au travers de notre histoire, dans notre peau, et je trouve ça, c'est potentiellement très intéressant aussi.
Là encore, c'est comme les vaccins ARN messagers, hein. Tout ça vient des progrès de la génétique, en fait.
Complètement.
Donc, du fait que nous connaissons de mieux en mieux notre génome, et on sait aujourd'hui que on hérite en partie de notre génome, mais on peut nous-mêmes modifier les conditions d'expression du génome, ce qu'on appelle l'épigénétique.
Oui.
C'est-à-dire, alors c'est des trucs tout bêtes, hein, mais aujourd'hui, on sait par exemple que quand on fait beaucoup de sport, ça modifie les conditions d'expression du génome, et c'est la raison pour laquelle on a moins de maladies, mais on est aussi plus heureux, plus calme, etc. Mmh. Mais c'est pas simplement faire du sport. C'est par exemple apprendre un instrument de musique, voyager, apprendre une langue étrangère, avoir des amis. Et donc ce qui est passionnant, c'est que toutes ces intuitions qu'on avait, on se doutait que apprendre un instrument de musique ou voir des amis, c'était bon.
Mm-hmm.
C'est assez intuitif. Mais aujourd'hui, on le montre, on le démontre scientifiquement.
Mm.
Et alors, c'est fondamental parce que ça permet de faire des ordonnances. Vous voyez, en France, aujourd'hui, on peut prescrire, si vous êtes médecin généraliste, vous pouvez prescrire des séances de sport sur ordonnance.
Oui.
C'est formidable,
ah oui.
C'est très bien,
c'est
très justifié. Il y a un fondement scientifique à ça.
Oui. Et c'est vrai qu'aussi, au niveau des maladies génétiques, hein, pour l'épigénisme, toujours pour le génome, pour la compréhension des maladies génétiques, dans leurs soins, sur la maladie visuelle, la myopathie, etc., c'est quand même aussi des avancées très importantes.
Oui, des avancées aussi très importantes pour... Alors ça aussi commence à se matérialiser, hein. C'est pas de la science-fiction, mais au début on le voit déjà, ce qu'on appelle les maladies orphelines,
c'est-à-dire
des maladies extrêmement rares qui touchent souvent des jeunes gens.
Oui.
Alors les maladies rares, elles sont rares, mais les gens qui souffrent de maladies rares, il y en a beaucoup. Donc c'est quand même un phénomène de société très important. Et aujourd'hui, donc des jeunes, des adolescents parfois, hein, qui avaient il y a encore quelques années une espérance de vie de 2-3 ans, aujourd'hui, grâce aux thérapies géniques, alors c'est très compliqué, ça coûte très cher, mais c'est pas grave, faut le payer. Mais on peut les guérir, vous voyez. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué que l'ARN messager. On modifie leur génome, on intervient sur leur génome.
Sur leur génome.
Aujourd'hui, ce sont des choses qu'on commence à bien savoir faire.
Oui. Comment avez-vous construit votre livre? Ça a été des notes pendant un bon moment, de la recherche. Vous avez rencontré des gens. On sent un travail affûté, aiguisé, pointu. La passion aide aussi, bien sûr, à construire ce genre de choses. Mais quelle est la genèse en fait de cet ouvrage?
Alors pour le coup, alors comme vous savez, j'écris beaucoup de livres, je publie au moins un livre par an, mais celui-ci est un peu spécial pour moi parce que c'est un livre que j'ai commencé.
J'essaie de vous avoir plusieurs fois, c'est la première fois que j'arrive à vous avoir. Oui.
J'en suis ravi. Ce livre, je l'ai commencé il y a très longtemps. C'est vraiment un sujet de réflexion pour moi, qui est un sujet de très long terme.
Ouais.
Donc ça fait 10 ou 15 ans que je travaille beaucoup. Alors, je dirige un cabinet de conseil qui travaille beaucoup sur les questions d'économie de santé. Donc, je connais très bien ce milieu-là. Je rencontre énormément de chercheurs, de médecins.
Mm-hmm.
Et donc, ça faisait très longtemps, si vous voulez, que j'avais en tête de faire un livre qui soit un livre d'histoire et de prospective de la santé. Donc, j'ai accumulé énormément de documentation et je réfléchis à ça depuis longtemps. Donc, quand il a fallu écrire le livre, je dirais que c'était là. J'ai dû construire le livre, j'ai dû en construire l'architecture, mais j'avais déjà tout le matériel et j'avais beaucoup d'éléments en tête.
Quels ont été les retours des spécialistes, des médecins, et en cette période, virologues, épidémiologistes, infectiologues? Est-ce que vous avez des retours, des discussions, des avis? Comment ont-ils vu?
Oui. Écoutez, je suis vraiment ravi parce que j'étais un petit peu circonspect à la sortie de ce livre parce que je me disais, au fond... on est en période de crise. Est-ce que les gens ont envie véritablement d'entendre un discours qui est un discours un peu positif, quoi, qui leur explique que la crise est grave, mais qu'on va en tirer quelque chose de bon et que ça va
accélérer
des mutations positives. Et voilà, mais pour moi, c'est une surprise. Hein. Moi, je me rends compte déjà... Alors, j'ai fait énormément de livres et j'ai la chance d'être relativement présent dans les médias, mais là, j'ai jamais eu une promotion telle, si vous voulez, avec un livre, et l'accueil est tout à fait excellent. Il faudrait demander à mon éditeur, mais je crois que ça marche très bien.
Je crois qu'ils sont très contents chez XO.
Voilà. Et donc, j'ai beaucoup d'échanges. échanges, beaucoup de gens qui me disent, en fait, ça nous reconnecte à quelque chose de positif. Oui. Voyez,
oui.
Et c'est aussi ce que me disent les médecins, parce que j'ai beaucoup de médecins qui lisent ce livre, qui me disent, mais ça contribue, alors je dirais pas que mon livre donne du sens à leur travail, puisque ce oui. serait prétentieux et faux, mais ça contribue quand même à nous remettre dans une logique, ça contribue à nous faire prendre conscience qu'on est embarqué dans une aventure qui a commencé il y a 400 000 ans,
oui.
et qui accélère et qui continue, pour le meilleur.
Pour le meilleur, et on ne va pas dire pour le pire, hein, bien évidemment, pour le meilleur. Je suppose que vous écrivez souvent, vous allez continuer à écrire. Est-ce qu'il y aura un autre sujet, par exemple l'après-Covid, ou comment les Français, le monde a vécu ce genre de choses, et les avancées, notamment, on le disait, en moins d'un an des vaccins, ça pourrait être une piste d'écriture
ou... Oui, bien sûr, ouais. oui, je pense que je vais refaire un livre assez rapidement. Vous savez, moi, j'écris tous les jours. Voilà, il y a deux ouais. choses que je fais tous les jours. C'est du sport et écrire. Donc,
bravo, c'est bien.
C'est une hygiène de
c'est très bien.
Oui, mais j'y peux rien, je ne peux pas m'empêcher d'écrire.
Oui.
Vous savez, puisque votre émission est une émission littéraire...
Délivrez-vous, oui.
Écrire, ce n'est pas simplement écrire. Écrire, c'est penser. Mmh. Moi, j'écris parce que ça me force à penser différemment.
Ouais. Ben, vous écrivez et moi, je lis, voyez.
Oui. Mais vous savez ça. Vous savez oui. que c'est important.
Bien sûr,
vous savez
très
que,
important.
Ce qu'on dit dans un livre, c'est différent de ce que l'on dit à l'oral. Ce
Bien
sont
sûr.
Vraiment deux façons de communiquer
c'est sûr.
Qui sont différentes. Et voilà, c'est la raison pour laquelle j'écris tous les jours, parce ouais. que ça m'astreint à une rigueur et à une façon de penser qui est singulière.
Moi, j'aime bien lire pour moi et puis aussi pour donner la parole et puis discuter des livres qui m'ont intéressé, qui m'ont plu, qui m'ont passionné, discuter avec les auteurs. En tout cas, c'est un livre passionnant, l'histoire au travers du monde, de la vie, de notre histoire de l'humanité. On s'aperçoit que finalement, ça a commencé il y a longtemps. Homo Sanitas aux excellentes éditions XO. Merci Nicolas Bouzou, c'était un vrai plaisir de vous recevoir.
Oui,
prenez soin de vous et puis j'espère vous retrouver pour un autre livre, pour
quand vous voulez,
un autre sujet.
Avec grand plaisir.
Eh bien, écoutez, je m'en souviendrai alors. Merci beaucoup. Homo Sanitas.
Au revoir.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Quant à nous, nous nous retrouvons pour une prochaine émission. En attendant, prenez soin de vous et bonne lecture. Au revoir. À bientôt.